Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Bien aller.
Écrivaine.
Blogueuse.
Scénariste et animatrice.
Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
Est-ce que le gouvernement sera bombardé de poursuites et d'actions collectives suite à la pandémie? C'est la question que se pose Lara Khoury, professeure agrégée et co-directrice du groupe de recherche en santé et droit à l'Université McGill. Madame Khoury, bonjour.
Oui, bonjour.
Écoutez, vous signez cette lettre ouverte dans la presse et la question que vous posez est quand même légitime parce que tout au long de la crise qu'on traverse, évidemment, il y a des manquements qui ont été pointés. Et là, la pandémie laisse des victimes sur son passage et on se demande comme citoyen si les dommages subis, si les dommages qu'on subit suite aux décisions du gouvernement pourraient faire l'objet d'actions collectives, de poursuites contre les pouvoirs publics.
Oui, effectivement, je pense que c'est une des nombreuses questions que les juristes se posent en ce moment. On est affecté vraiment très directement par les décisions qui sont prises. Ça ne veut pas dire que les décisions sont mauvaises, évidemment, mais elles ont des conséquences. Et donc, une des questions qu'on se pose avec mon équipe, c'est vraiment, entre autres, est-ce que certains groupes qui subissent des préjudices plus importants que les autres vont être tentés de poursuivre le gouvernement du Québec notamment? Et c'est une grande question. Vous faisiez référence à l'article que j'ai écrit. Moi, je pense que les chances de succès sont très limitées. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je pense qu'il faut y penser à deux fois avant de penser investir de larges sommes d'argent là, dans des poursuites de cette sorte-là.
Et Mme Khoury, il y a deux affaires là-dedans, à mon sens. La première, c'est qu'il y a un concept qui est très important en justice, et c'est l'intention. Et en ce moment, le gouvernement prend des décisions au meilleur de ses connaissances, n'a jamais fait face à cette situation. Donc, vraiment, ses intentions sont bonnes. La deuxième affaire aussi, c'est quand on pense action collective contre des organismes qui sont publics, prenons par exemple les CHSLD, mais au bout du compte, ce sont les citoyens qui vont éponger la facture.
Oui, ouais, vous avez tout à fait raison. Mais pour revenir à votre... c'est intéressant la façon que vous présentez ça, l'intention. Écoutez, la législation en ce moment, toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement pour protéger notre santé, elles sont prises dans le cadre d'une déclaration d'urgence sanitaire. Et dans la loi sur la santé publique, toutes les décisions de bonne foi qui sont prises par le gouvernement, par la ministre de la Santé et des Services sociaux et par toute autre personne sont protégés par une immunité. Donc, vous parliez d'intention, puis la loi utilise un vocabulaire similaire. La loi parle de bonne foi. Et je pense qu'on peut s'entendre là qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise foi en ce moment. En tout cas, moi, j'en constate pas. Puis je pense aussi, je suis contente que vous souligniez le fait que c'est une situation complètement nouvelle. On n'a pas vécu ça, en tout cas, pour la plupart de notre vivant. On n'a pas vécu une telle situation. Ce qui est difficile pour le gouvernement, c'est que les décisions sont prises sur des fondements scientifiques et la science change constamment. Et donc, le gouvernement doit constamment changer son chapeau de bord. Puis c'est pas nécessairement parce qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, mais parce qu'ils obtiennent des informations là, en temps réel qu'ils développent devant nos yeux. Alors, c'est un peu normal qu'on voit ce phénomène de changement parfois.
En même temps, Mme Khoury, là, je me fais un peu l'avocat du diable. Je comprends que le gouvernement prend ses décisions au meilleur de ses connaissances, basées sur des connaissances qui sont sans cesse fluctuantes. Il n'y a pas de précédent. Par contre, l'analyse de la crise, les questions qui sont posées, permettre de mettre en lumière des ratés du système, des décisions antérieures qui ont été prises et qui, elles, causent préjudice. Et là, je fais référence, évidemment, au CHSLD. C'est l'exemple qui nous vient en tête. Mais il y aurait aussi un deuxième exemple. Si on parle, par exemple, de la scolarité des enfants, de la façon dont, en ce moment, la crise impacte cet accès à l'éducation-là, qui est quand même une loi au Québec. Là, on a la loi sur l'instruction publique. On avait quand même des modèles dans d'autres pays, des modèles de scénarios où c'était possible d'anticiper. Donc, en ce sens, est-ce qu'il y aurait des actions possibles?
Bon, on parle de raté du système. Je pense le premier ministre en a parlé tout à l'heure dans son point de presse. Là, il dit on apprend des choses en ce moment. Vous savez, quand je dis qu'il y a une immunité de poursuite contre le gouvernement du Québec, ça veut dire que pour les décisions prises en vertu de la loi sur la santé publique, il ne peut pas y avoir de poursuite en responsabilité devant les tribunaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité à prendre par l'État. C'est juste que cette responsabilité-là, elle va s'exprimer d'une façon différente. Ça ne peut pas être les juges qui vont lui imposer. Et donc, moi, personnellement, là, je défends l'idée que cette responsabilité-là devra être prise pendant la pandémie, mais surtout en période post-pandémie. Et notamment, puis là, on y vient, on constate des erreurs de longue date dans certains systèmes. Les CHSLD, c'est pas nouveau, le manque de ressources, les problèmes qu'on constate en ce moment. Ça fait longtemps qu'on parle de certains de ces problèmes-là. Et donc, je pense qu'une des prises de responsabilité du gouvernement, ça va être de revoir ces systèmes-là et d'apprendre de ces erreurs et d'introduire des changements. Puis je pense que si ça c'est fait, ça sera une façon de prendre ses responsabilités, puis une façon d'être redevable envers la population du Québec qui souffre en ce moment.
Oui, puis un point intéressant que vous soulevez, c'est un peu cette logique utilitariste, là, ce ne sont pas vos mots, ce sont les miens. C'est-à-dire le gouvernement en ce moment choisit ses priorités. Et tantôt vous faisiez allusion au fait que peut-être dans la prise de décision, on cause préjudice à des groupes en essayant d'en protéger d'autres, mais en même temps, justement, si on tient compte de cette logique utilitariste-là, le gouvernement doit prendre ses décisions en faisant un calcul d'impact, c'est-à-dire qu'est-ce qui va avoir le moins d'impact. C'est clair qu'il y a des impacts sur des groupes, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut leur en tenir rigueur?
Vous savez, une des raisons pour lesquelles on accorde en droit des immunités au gouvernement, ça tient au fait que le gouvernement doit constamment réconcilier des intérêts divergents. Puis effectivement, comme vous dites, là, en priorisant certains groupes, on en désavantage d'autres. Mais en bout de ligne, l'État doit poursuivre l'intérêt public. Et en poursuivant l'intérêt public, ben, c'est sûr qu'il y a des laissés pour compte. C'est
l'intérêt
normal,
de la majorité.
C'est pas tout à fait l'intérêt de la majorité, c'est un petit peu différent. Puis j'espère que c'est pas l'intérêt de la majorité, parce qu'en fait, on se rend compte que les personnes vulnérables en ce moment sont particulièrement affectées.
Exact.
C'est pas les personnes qui font partie de la majorité. Mm. C'est pas les personnes qui ont les voix les plus fortes dans le débat public. Donc, faut faire attention. C'est pas l'intérêt de la majorité. Et une des raisons pour limiter, c'est qu'on veut pas que l'État prenne ces décisions-là en ayant peur d'être poursuivi. Parce que s'il a peur d'être poursuivi par certains groupes qui ont un pouvoir, un accès à la justice plus important que d'autres, mais là, ça va biaiser ses décisions. Il va penser, ouf, je vais prendre des décisions dans l'intérêt de ceux qui pourraient me poursuivre. Et donc, c'est intéressant de savoir, je pense, pour tout le monde, que l'immunité, c'est pas de l'impunité, mais c'est un peu pour permettre à l'État de justement réconcilier les intérêts divergents. Puis, en bout de ligne, de protéger les vulnérables, les groupes vulnérables, qui seront peut-être pas nécessairement ceux qui auraient la possibilité de le poursuivre devant le tribunal. Donc, il y a quelque chose de bon dans cette unité-là. Maintenant, l'État, dans la mesure où prend des décisions dans l'intérêt du public, vraiment, la responsabilité devant les tribunaux, elle est extrêmement rare dans ces situations-là. Encore une fois, la responsabilité va devoir passer par d'autres mécanismes. Mm. L'État a une obligation de reddition de compte à la population. La loi est pas très demandante à cet égard-là. Moi, je pense qu'il va falloir faire une très bonne reddition de compte, être très communicatif, très transparent. Comme je vous disais, bâtir sur les erreurs. Puis aussi se demander comment on va prendre soin collectivement des victimes. Comme vous le dites, là, qu'on poursuive le gouvernement devant les tribunaux, l'argent là que le gouvernement peut donner en compensation aux victimes par le biais de la voie des tribunaux va provenir de nos impôts. Mmh. OK, il faut comprendre ça. Nos impôts vont payer les juges, vont payer le système judiciaire, les victimes vont payer leur avocat. Il va y avoir des experts qui vont devoir être payés. Puis l'État va utiliser l'argent de nos impôts pour compenser les victimes. Donc, on doit se demander comme société, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de venir en aide?
C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser cet argent-là pour bonifier nos infrastructures? Lara Coury, merci. On peut lire votre texte dans la presse. Lara Coury, qui est professeure agrégée, co-directrice du groupe de recherche en santé et droit à l'Université McGill. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
De 13 à 15. Les